Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence jusqu'à 9h, votre magazine qui reçoit aujourd'hui les confidences de Mgr Benoît de Cinetti, vicaire général du diocèse de Paris. Nous allons bien sûr parler de Notre-Dame de Paris avec vous, également de votre passion pour l'écriture, puisque vous êtes auteur d'un livre qui a pour titre « Il faut que des voix s'élèvent », un livre publié en avril 2018 aux éditions Flammarion. J'imagine, comme beaucoup de Parisiens, vous prenez de temps en temps votre voix, voiture, peut-être le train, pour aller peut-être respirer sur les côtes de Normandie. Bonjour.
Bonjour. Je connais trop mal la Normandie. Un petit peu quand même, suffisamment. Dieppe, Rouen. Oui, j'ai pas mal d'amis, en fait, quand j'y réfléchis, qui sont là-bas et chez qui j'ai eu l'occasion de passer quelques séjours. Mais vous savez, les Parisiens, en fait, la campagne, ils y vont quelques jours et puis après, ils regagnent vite la pollution à l'intérieur du périphérique. C'est un peu notre drogue à nous, si vous voulez.
Vous avez été scout. Quel souvenir en gardez-vous de ce mouvement ?
Une pédagogie avec laquelle je suis très à l'aise et que j'apprécie beaucoup, dont je constate tous les mérites et tous les apports qu'elle peut avoir pour les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes urbains qui ont du mal aujourd'hui à considérer qu'un champignon ne soit pas en boîte et que les plantes ne soient pas en sachet. Alors, donc c'est bien de pouvoir découvrir la nature et de pouvoir l'aimer.
Alors, puisque vous parlez de pollution, par quelle pollution notre société française est-elle marquée ?
Je pense que la première qui me vient à l'esprit, c'est peut-être la pollution qui est liée aux effets de l'argent, à tout ce que l'argent peut faire naître comme cupidité et comme avidité. La question de l'argent est tellement devenue centrale que nous en devenons collectivement et individuellement souvent un peu fous.
Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop la hiérarchie ecclésiale, en quoi consiste votre beau ministère, j'imagine, de rencontre ?
Suite vicaire général, il consiste à être, j'allais dire, le collaborateur le plus proche de l'évêque. Dans chaque diocèse, il y a un évêque, ça tout le monde le sait. Ouais. Et chaque évêque a auprès de lui un ou plusieurs vicaires généraux. À l'origine, si on remonte dans l'histoire de l'Église un peu ancienne, on s'aperçoit que c'était d'abord dû au fait que l'évêque parfois était très absent de son diocèse, parce qu'il n'y goûtait que peu de plaisir et qu'il préférait monter à Paris ou dans d'autres métropoles et qu'il fallait bien que quelqu'un fasse son travail. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les évêques font leur travail chez eux, mais ils ont besoin quand même, pour les y aider, de vicaires généraux. C'est ce que j'essaye de faire à Paris avec 4 autres confrères qui sont comme moi vicaires généraux à Paris.
Et avant d'en arriver à ce poste de vicaire général, quelles sont les différentes étapes de votre vie ? La première, évidemment, la naissance.
On peut dire que je suis né en 1968, qui est une année marquante, à plus d'un titre. J'ai donc 51 ans, j'ai grandi dans une famille parisienne, j'ai un frère plus jeune que moi. Je suis rentré au séminaire à l'âge de 20 ans, en 1988, à Paris, au séminaire de Paris, où j'ai été ordonné en 1997. Ça a pris un peu de temps, non pas que j'étais particulièrement mauvais, mais parce qu'il y avait à l'époque un service militaire, c'était l'autre siècle, l'autre millénaire, et j'ai doublé ce service militaire par une expérience d'un an dans une association humanitaire en Bosnie, pendant la guerre de Bosnie. Voilà, et depuis mon ordination à Paris, donc en juin 97, j'ai eu l'occasion d'être d'abord jeune prêtre dans une paroisse du nord de Paris, porte de Clignancourt, puis secrétaire particulier de Mgr Lustiger, l'archevêque de Paris à l'époque, puis pendant 11 ans à Saint-Germain-des-Prés, une paroisse du centre de Paris, où je me suis occupé de la paroisse et des étudiants et des jeunes de Paris, et depuis 2016, donc vicaire général.
On va en parler qu'un tout petit peu en préambule à cette émission. Notre-Dame est à côté du lieu où je vous ai interviewé, donc rue Saint-Ursin. Comment va-t-elle, Notre-Dame de Paris, cette église, cette cathédrale ?
L'église est encore debout et c'est ça qui est un signe d'espérance formidable. Après, il y a beaucoup de travail, encore de consolidation, de sécurisation, de vigilance, parce que le bâtiment reste très fragile, avec ces vents et ces tempêtes qui viennent de chez vous d'ailleurs, jusque chez nous, et peut-être même le froid.
Et entre le temps qui fait et le temps qui passe, quelques mots sur ces différents corps de métier qui mettent en œuvre leurs compétences pour sécuriser l'édifice qu'est Notre-Dame de Paris et puis sa restauration.
Vous savez, ce sont les compagnons qui font un travail extraordinaire depuis 6 mois. Ils ont sauvé, après les pompiers, c'est les compagnons du Devoir qui ont sauvé la cathédrale, ça c'est clair. Maintenant, il faut qu'ils puissent continuer à travailler et que l'ambiance dans laquelle ils travaillent s'améliore. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué, c'est tendu, l'administration est parfois très, très présente. En tout cas, ils ont besoin qu'on les soutienne, voilà, par les prières et par toutes sortes d'encouragements amicaux qu'on peut leur adresser.
un lien privilégié existe entre Notre-Dame de Paris et la Normandie, et puisque beaucoup de cloches ont été fondues, réalisées, à Villedieu, dans cette cité du cuivre.
Je ne sais pas si le bourdon a été fondu là. En tout cas, nous avons eu la possibilité d'entendre le bourdon sonner. C'était la première fois qu'une cloche de Notre-Dame sonnait depuis l'incendie, lors des obsèques du président Chirac. Ces cloches qui ont été changées il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, pour les 850 ans de la cathédrale.
Une introduction, un préambule au sujet de votre livre aussi, qui a permis cette rencontre. Il faut que des voix s'élèvent, publié en avril 2018 aux éditions Flammarion. La France, terre d'asile ?
Oui, alors c'est toute la question qu'on appelle aussi la question des migrants. Voilà, ce terme de migrant, il recoupe des réalités très différentes, parce que entre le jeune érythréen qui arrive sur les côtes italiennes en ayant traversé la mer dans une barque de fortune et l'étudiant américain qui vient suivre des cours à la Sorbonne, ce sont tous les deux des migrants, mais évidemment de manière très différente. Entre l'étudiant, le jeune français qui va faire un stage à Hong Kong et le jeune afghan qui arrive des hauts plateaux pour gagner sa vie à Londres, on est dans une situation très différente, et ce sont bien des migrants. Donc ce terme est tellement large qu'en fait on l'utilise toujours de manière un peu impropre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les mouvements migratoires, qui sont d'ailleurs principalement sur le continent africain ou sur le continent latino-américain, voire le continent asiatique, et assez peu proportionnellement en Europe, les mouvements migratoires sont de plus en plus impressionnants. Voilà. Et alors, sans doute par la médiatisation dont ils sont l'objet et par les foules concernées, deviennent de plus en plus angoissantes pour les opinions publiques occidentales notamment, nord-américaines et européennes. On voit bien ça aujourd'hui.
Et Mgr Benoît Cinetti, que dit l'Église par rapport à ces flux migratoires ?
La seule chose que l'Église dit avec force, c'est que, quelles que soient les situations, la personne qui se présente doit être traitée avec le respect qu'elle mérite, et donc humainement. Voilà. Nous constatons qu'aujourd'hui, dans notre pays, en France, les gens ne sont pas traités avec le respect qui leur est dû. Voilà. Et je ne parle pas d'un respect de politesse. Je ne demande pas qu'on leur fasse des courbettes ou qu'on leur dise bonjour monsieur ou au revoir madame. Je demande juste qu'on les traite humainement, qu'on les considère humainement. D'abord, de ne pas avoir l'a priori, avant même qu'ils aient formulé une quelconque demande, que leur arrivée en France est forcément illégale ou suspecte. Voilà. Qu'on entende ce que veulent dire les gens. Ça veut dire donc que pour qu'ils puissent dire des choses, il faut leur donner les mots pour le dire. Or, la plupart d'entre eux ne parlent pas le français. Voilà. Et donc, comment les accueillir ? En leur apprenant le français pour leur permettre de formuler leurs demandes. Ce sont souvent des gens qui portent en eux des traumatismes très forts. Soit ces traumatismes sont la cause de leur départ, soit ces traumatismes ont été vécus pendant leur voyage. Voilà. Viol, réduction en esclavage, mort de proches par la noyade en Méditerranée, transport avec des passeurs pour ceux qui viennent d'Afghanistan ou d'ailleurs, des conditions extrêmement violentes. Et puis c'est des arrachements familiaux, culturels. Ils arrivent dans nos villes, ils sont totalement perdus. Donc ils ont besoin aussi d'avoir une présence, un soutien humain, psychologique, qui les aide à pouvoir se reconstruire. Il s'agit juste de voir avec eux comment faire en sorte qu'ils puissent repartir dans leur pays de manière digne, de manière constructive. Ça ouvre une réflexion gigantesque, mais à laquelle nous ne pouvons nous soustraire.
Mgr Benoît Cinetti, vous êtes donc l'invité de Tendance Confidence pour ce début d'année 2020. Nous vous retrouvons pour la suite de ce magazine dans quelques instants.
Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Les suites de votre magazine Tendance Confidence, dimanche matin, où j'accueille Mgr Benoît Cinetti, vicaire général du diocèse de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Nous allons continuer de parler de certains d'entre eux au cours de cette émission. Vous avez aussi présidé l'inhumation d'un chanteur bien connu qui s'appelle Johnny Hallyday. Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre le feu de l'Esprit Saint, en tant que chrétien, et le feu des projecteurs ?
Mais en préférant de loin le feu de l'Esprit Saint et en me méfiant de beaucoup du feu des projecteurs. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, entre autres, d'avoir pendant 2 ans un ministère auprès du cardinal Lustiger, et donc de découvrir ce qu'était être sous le feu des projecteurs à travers lui, de l'accompagner dans ses déplacements, de rencontrer des chefs d'État, le pape, un certain nombre de personnalités que je n'aurais aucune raison de rencontrer par moi-même, et donc de me rendre compte à la fois du jeu de vanité qu'il y a dans tout cela, de voir à quel point le cardinal lui-même n'en était pas dupe, mais cherchait à y être présent simplement comme témoin du Christ. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à trouver un équilibre dans ces histoires-là. Ceci dit, j'ai célébré les obsèques de Johnny Hallyday sans que pour autant il ne me prenne le goût de célébrer les obsèques de toutes les stars qui décèdent ou qui décéderont dans le futur. C'était vraiment un événement dans ma vie. Il s'est trouvé que c'était cet événement-là. Voilà, j'étais là à ce moment-là, c'est tout.
Et donc la maison d'édition Flammarion a saisi l'occasion pour parler de votre livre.
Alors ça a beaucoup réjoui l'attaché de presse de Flammarion, effectivement, parce que 4 mois après les obsèques, mon livre sortait, et qu'effectivement, elle avait sans doute un petit peu peur qu'un livre écrit par un prêtre ait du mal à pouvoir être relayé dans des médias non confessionnels, et qu'elle n'a eu aucun problème à me faire inviter un peu partout dans toutes les grandes radios, télévisions ou presse écrite, parce qu'elle n'avait qu'à dire que c'était le prêtre qui avait enterré Johnny pour que tout de suite ça intéresse vos confrères qui m'invitent comme ça à parler à leur micro. Et je mettais les choses d'emblée dans la clarté en disant que j'étais prêt à répondre à une question sur les obsèques de Johnny Hallyday. En gros, toujours la même, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était pas très compliqué de trouver une réponse à chaque fois, mais à condition qu'après on parle des migrants. Et c'est vrai qu'il y a un clin d'œil de la Providence pour moi qui fait que cet événement pour lequel je n'étais pas particulièrement préparé et que je n'attendais pas, on n'attend pas la mort d'un homme évidemment, m'a permis d'être mis sous les projecteurs, comme vous le disiez, non pas pour ma gloire personnelle, mais pour parler d'une situation qui me vaut, je vous le dis, bien plus de coups que de louanges.
Avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, vous avez déclaré pour le journal La Vie, il y a une part d'orgueil humain qui a disparu avec l'incendie. Mais de quel orgueil s'agit-il ?
Eh bien, je pense que, en fait, l'incendie de la cathédrale nous a mis en face d'une réalité. Pour nous, Église en France, cette réalité, nous l'avons contemplée lorsque nous sommes entrés la nuit de l'incendie dans la cathédrale, lorsque les portes se sont ouvertes. À travers la fumée, à travers la poussière, à travers les cendres, il y avait cette croix de Marc Couturier qui a été installée il y a 30 ans dans le cœur de la cathédrale, recouverte d'or et qui brillait, qui étincelait dans la nuit. Et à ses pieds, l'autel sur lequel la messe est célébrée. Et à la droite, la Vierge au pilier, toute blanche, immaculée, au milieu de la poussière et de la cendre.
Et en voyant cette scène, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Nous nous sommes dit, en fait, c'est là l'essentiel. Bien sûr que Notre-Dame est magnifique et qu'il ne faut pas du tout dénigrer la beauté, ni l'architecture, ni le talent, ni les artistes, etc. Mais ce que je veux dire, comprenez-moi bien, c'est pas que Notre-Dame n'est pas importante, c'est que l'important n'est pas là. L'important, il est la croix, l'autel et Marie. La prière de Marie qui accompagne l'Église, parce que l'Église est chargée de célébrer la présence du Christ vivant sur l'autel par l'Eucharistie et a annoncé la bonne nouvelle que la mort a été vaincue. C'est ça l'essentiel. Et donc cet incendie, il nous a remis brutalement, violemment, à travers l'Église de Paris, toute l'Église de France, devant l'essentiel de notre mission. Nous n'avons pas à rechercher les honneurs. Nous n'avons pas à rechercher la gloire. Nous n'avons pas à rechercher les richesses. Nous avons à rechercher, à annoncer l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et l'Évangile doit s'annoncer à temps et à contre-temps. Nous n'avons pas à chercher à être flattés, nous n'avons pas à chercher à être reconnus, nous avons à chercher à être des disciples de Jésus.
L'Évangile comme une école de l'exigence, comment tenir en même temps, Mgr Benoît de Cinetti, cet argent dont nous avons beaucoup parlé à l'occasion de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, et en même temps ces migrants, et en même temps ces personnes que vous côtoyez à Paris et ailleurs, et qui manquent de dignité, mais qui manquent parfois aussi du nécessaire quotidien?
Oui, c'est un enjeu vital. Il y va, je pense, de notre crédibilité dans ce pays. Si nous ne sommes perçus que comme une institution qui cherche à rassembler des millions pour reconstruire son château, à ce moment-là, nous sommes déjà morts. Et ça n'est évidemment pas ce que nous sommes et ce que nous faisons. Cet argent qui est arrivé pour pouvoir reconstruire Notre-Dame, il permettra à cette église de redevenir, à ce bâtiment, de redevenir le lieu où se célèbrent les grandes heures de notre pays, ses tragédies et ses espoirs. Le lieu où un peuple peut venir prier, voilà, célébrer, recevoir la présence du Christ vivant. Mais ce chantier-là trouvera tout son sens s'il est accompagné au cours de son exécution par la mise en place d'autres chantiers à destination des plus fragiles et des plus pauvres. Au Moyen-Âge, quand un évêque construisait une cathédrale, décidait d'entreprendre un chantier comme celui-là, très souvent, il l'accompagnait d'un projet qu'on appelait l'Hôtel Dieu, un hôpital pour les miséreux. D'ailleurs, à Paris, l'Hôtel Dieu est en face de la cathédrale. L'Hôtel Dieu est malheureusement en train de fermer après que la cathédrale ait brûlé, mais ça c'est une autre affaire.
Un beau lien entre Notre-Dame de Paris, sa restauration, mais aussi ce lieu de prière, avec l'Hôtel Dieu dont vous parlez aussi, l'accueil des plus démunis, et votre livre aussi où vous parlez des migrants qui manquent aussi, comme beaucoup de personnes, de dignité.
Aujourd'hui, nous avons un devoir, pouvoir imaginer soit dans l'immédiate proximité de la cathédrale, au sens géographique, soit ailleurs dans Paris, des petits projets Hôtel-Dieu qui vont aller à la rencontre des plus fragiles et des plus misérables de notre société, en disant, en fait, cette cathédrale qui se construit, qui se reconstruit, elle ne trouvera tout son éclat et toute sa raison d'être que si la charité rayonne dans notre diocèse. L'église mère du diocèse doit être le visage lumineux de la charité du Christ à l'œuvre dans le diocèse.
J'avais reçu à ce même micro Sœur Emmanuelle à l'occasion de la parution de son livre « Richesse de la pauvreté » où elle faisait une distinction entre pauvreté et misère. Que vous inspire ce titre de ce livre « Richesse de la pauvreté » de Sœur Emmanuelle ?
Moi, j'ai beaucoup fréquenté et beaucoup aimé un homme qui s'appelle le Père Sérac, Pierre Sérac, qui était un jésuite qui a vécu longtemps en Inde et qui était un peu comme ces grandes figures que vous évoquiez, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, on pourrait mettre Mère Teresa, enfin des apôtres de la charité, de la pauvreté. Pierre Sérac détestait la misère. La misère, elle n'est pas choisie, elle s'abat sur vous et puis elle porte atteinte à la dignité de la personne. La pauvreté, c'est une forme de détachement, alors parfois plus ou moins subi, parfois plus ou moins choisi. En tout cas, de pouvoir montrer que ça n'est pas l'argent qui m'assure mon bonheur. Et la pauvreté, c'est cette capacité à reconnaître que finalement, ce que je suis, je le dois à ce que je reçois. C'est recevoir sa vie et non pas chercher à la posséder. C'est ça le vrai chemin de pauvreté.
Alors pourrions-nous dire en résumé, Mgr Badol de Cinetti, tu peux posséder des richesses, mais ne te laisse pas posséder par elles, parce que là où tu mets ton cœur, tu mets ta raison de vivre.
En fait, c'est ça, hein, c'est là où est ton cœur, c'est vraiment la parole de l'Évangile. Montre-moi où est ton cœur et je te dirai qui tu es. Enfin, c'est vraiment ça, quoi, la réalité.
Merci Mgr Badol de Cinetti pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Et je rappelle le titre de votre livre, Il faut que des voix s'élèvent. Et c'est paru aux éditions Flammarion. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest auparavant. C'est votre billet spirituel et ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Henri Vanier du diocèse de Coutances et Avranches. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine.
Podcast by Tendance Ouest.